Mesdames, messieurs, bonjour. Sébastien Saint-Pierre avec vous et bienvenue à l'agriculture de demain. Aujourd'hui, le titre de l'émission, une vraie réforme ou un pétard mouillé? À l'animation, M. Simon Bégin ainsi que M. Guy Debailleul. Monsieur, bonjour.
Bonjour Sébastien. Ben oui.
Bonjour Sébastien.
C'est la question qu'on se pose ce matin, une vraie réforme ou un pétard mouillé, en relation avec un sujet qui nous tient à cœur ici à l'Institut Jean-Garon depuis plusieurs années, c'est-à-dire la nouvelle politique d'architecture et d'aménagement du terroir mise de l'avant par le gouvernement du Québec. C'est un sujet qui est très important, on va le voir avec notre invité, et qui nous interpelle par sa dimension qui concerne évidemment le territoire agricole. Alors, pour faire un bref rappel, la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, a lancé il y a déjà plus de 2 ans ce qu'elle a appelé une grande conversation nationale pour revoir en profondeur une loi fondamentale au Québec, la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, qui a, comme la loi de protection des agricoles, plus d'une quarantaine d'années. Alors, je pense que c'était une bonne démarche de lancer cette conversation-là, parce que, évidemment, ces lois vieillissent, ces lois deviennent un peu moins adaptées à la réalité. Alors, il y a eu cette grande conversation pendant 2 ans qui a mobilisé des centaines de personnes. Ça a été vraiment assez remarquable de voir l'intérêt que toutes sortes d'acteurs qui s'intéressent, les municipalités, les urbanistes, les architectes, les agriculteurs, bien sûr, qui s'intéressent à l'aménagement du territoire, ont apporté beaucoup d'input dans cette conversation-là. Ça a amené en juin 2022, il y a presque un an, au dépôt d'une loi, d'un énoncé de politique, c'est-à-dire qui rappelait, qui donnait les grands principes. Globalement, cet énoncé était bien accueilli. On parle de limiter l'étalement urbain, on parle de vraiment protéger mieux le territoire agricole, les milieux humides, de densifier les villes. Alors, toutes des idées là, qui sont bien adaptées à nos défis d'aujourd'hui, qui étaient bien accueillies. Mais dès ce moment-là, on ne voyait pas vraiment quels seraient les moyens concrets. On nous annonçait un plan de mise en œuvre pour l'hiver 2023. Là, maintenant, on parle du printemps 2023, on y est, là, ça devrait pas retarder. Mais présentement, au moment où on se parle, il y a un autre jalon important qui est posé, c'est-à-dire, la ministre a déposé en mars un projet de loi, le projet de loi 16, modifiant justement la loi de l'aménagement du territoire. C'est une étape incontournable dans ce processus-là de revision de nos façons d'aménager le territoire. Et au moment où on se parle, il y a des audiences à la commission parlementaire pour recevoir des mémoires des gens intéressés. Alors, écoutez, il y a quand même eu plusieurs réactions et aujourd'hui, justement, notre invité va nous en parler. Il s'agit de M. Alexandre Turgeon. M. Turgeon est le directeur général du Conseil régional de l'environnement de la capitale nationale. Il est aussi responsable du dossier de l'aménagement au sein du regroupement des conseils régionaux de l'environnement. Alors, M. Turgeon, bienvenue. Merci de vous joindre à nous. Écoutez, vous avez été associé, je pense, à deux expressions, deux prises de parole récemment autour de ces enjeux-là. En mars, il y a eu une lettre ouverte dans les journaux signé par à peu près tout ce qui se fait d'experts en aménagement du territoire au Québec, dont Vivre en ville, dont vous êtes aussi membre. Et c'est une lettre qui semblait être assez sceptique, soulever des doutes sur le véritable courage du gouvernement de faire le virage qui s'impose en matière d'aménagement du territoire. Et plus récemment, le 6 avril dernier, dans les grands quotidiens, vous avez co-signé une lettre qui faisait valoir ce point de vue-là aussi que, bon, d'après les signaux qu'on reçoit, vous aviez des craintes sur le manque d'ambition du gouvernement face à cette réforme. Alors, effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'on est devant une vraie réforme ou un pétard mouillé? Alors oui, Guy, je vous laisse aller avec M. Turgeon.
Oui, bonjour M. Turgeon. Ben, peut-être d'abord, on pourrait s'interroger sur la pertinence de cette rénovation. Est-ce que une vraie réforme de l'aménagement du territoire s'avérait indispensable? En quoi est-elle importante?
Ben écoutez, je pense que faut dire les choses franchement. L'aménagement du territoire au Québec est un échec lamentable. On gaspille notre territoire, on l'occupe très mal, on garoche les activités un peu partout, n'importe comment, sans véritable relation les unes avec les autres. Le tout organisé strictement autour de l'automobile. Puis si on n'avait pas d'automobile, ben nécessairement, on serait obligé de penser notre aménagement de façon plus intelligente, parce que là, c'est un peu l'anarchie. On développe à très faible densité, on sépare les fonctions les unes des autres, on gaspille des milieux naturels et des territoires agricoles. Alors, on est des cancres, et il y a moyen de mieux faire les choses, à la fois pour le bénéfice des citoyens en termes de qualité de vie, mais également d'un point de vue économique, pour les villes, pour les gouvernements, parce que de mieux organiser les activités sur le territoire, c'est somme toute moins coûteux. Alors, il n'y aurait pas de perdant à mieux faire l'aménagement du territoire, mais encore faut-il avoir la volonté de changer les choses. Alors, c'est pour ça que on appelait à une politique nationale qui allait s'occuper non seulement d'architecture, mais d'aménagement du territoire. On a cette politique-là qui décrit bien le problème qu'on veut attaquer, qui dit bien pourquoi on veut le faire, qui donne les pistes pour les directions qu'on veut atteindre. Mais maintenant, c'est comment on met ça en œuvre collectivement, le gouvernement avec les municipalités et les différents acteurs sur le territoire qui s'occupent d'aménagement du territoire.
Et selon qu'est-ce qui... Vous dites qu'il y a un certain nombre de pistes intéressantes, mais en même temps, vous avez exprimé un certain nombre d'inquiétudes dans les documents dont Simon faisait mention. En gros, qu'est-ce qui manque dans ce projet de loi 16?
Ben, je dirais que le projet de loi donne... Ben d'abord, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de loi 16, qui modifie notamment la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et, c'est important de le dire, d'autres dispositions, notamment la loi sur les pouvoirs municipaux et les lois spécifiques à quelques municipalités au Québec. C'est une des pièces pour mettre en œuvre la nouvelle politique. Ce n'est pas la seule, clé. Il y a les moyens financiers qu'on va donner aux municipalités. Il y a également ce qu'on appelle les OGAT, les orientations gouvernementales en matière d'aménagement, par lesquelles le gouvernement du Québec donne la vision et la direction dans laquelle les MRC, les communautés métropolitaines, éventuellement les municipalités, doivent aller en matière d'aménagement du territoire. Donc, la loi, c'est une des clés. Et je vous dirais que La loi donne aux municipalités, d'un point de vue légal, beaucoup de moyens pour mieux faire les choses d'un point de vue aménagement. Je pense que ce qui déplaît à plusieurs groupes qui s'intéressent aux questions d'aménagement du territoire, c'est que tous les acteurs municipaux ne sont pas bien intentionnés. Même, je dirais, les meilleurs élèves ne sont pas parfaits de ce point de vue-là. Loin de là. Je vais prendre l'exemple de la ville de Québec. On a beau avoir un maire extrêmement bien et une équipe de conseillers municipaux extrêmement bien intentionnés. Ils se font constamment remplir. Ah, on a besoin de prévoir d'espace pour des nouveaux développements. Puis si ça se fait pas ailleurs, ça va se faire à l'extérieur de la ville de Québec. Et au nom de ça, on serait prêt à sacrifier encore des milieux naturels, encore sacrifier des terres agricoles sur le territoire de la ville de Québec. Bien beau d'avoir protégé les terres des Sœurs de la Charité, là, mais à l'est des terres des Sœurs de la Charité, qui sont composées de 200 hectares, il y a à peu près 260 hectares de terres agricoles de l'autre côté de l'avenue Bourg-Royal, dans le secteur de Beauport, sur lesquels plusieurs urbanistes de la ville de Québec voudraient qu'on mette la main et qu'on ouvre la voie au développement. Et fondamentalement, en matière d'aménagement du territoire, je dirais que tous les milieux ont besoin d'être améliorés. Il n'y a pas de quartier parfait là en termes d'aménagement du territoire. Et on a déjà des quartiers qui sont problématiques parce qu'ils manquent de services, de proximité, parce qu'il n'y a pas de transport en commun, parce qu'on y est dépendant de l'automobile. Alors nous, ce qu'on dit, première chose à faire, c'est d'arrêter d'ajouter au problème. On va pas régler le problème de la dépendance à l'automobile et du manque de services de proximité en ajoutant des nouveaux quartiers pour 2500 nouvelles habitations, elles aussi toutes dépendantes de l'automobile, puis où on y trouvera aucun nouveau service. Alors, c'est Claude Villeneuve de l'Université du Québec à Chicoutimi qui dit souvent c'est pas en répétant ce qu'on a fait qui a contribué au problème qu'on va solutionner le problème qu'on veut répondre. Alors, c'est la base. Et même des villes qu'on dit bien intentionnées, en tout cas sur le plan politique, ont de la misère à aller dans la bonne direction. Alors, quand je dis la loi donne les clés, des outils pour permettre aux villes de poser les gestes appropriés, c'est une chose. Mais ce qui manque, c'est une intention un peu plus forte. Puis on ne sait pas comment va s'articuler les nouvelles orientations gouvernementales en matière d'aménagement avec les outils légaux pour un peu forcer davantage la main aux municipalités, notamment celles qui voudraient continuer de faire comme avant. Je pense à Sainte-Catherine, la Jacques-Cartier, là, qui sont des champions dans l'art de scraper le territoire puis de détruire des boisés pour faire des quartiers résidentiels extrêmement moches. Je pense à des villes comme au nord de Québec. Le
lac Beauport, peut-être?
Lac Beauport. Où le territoire de lac Beauport est composé 100% de lac Beauport. Lac Beauport, c'est un endroit que les gens connaissent bien pour aller faire du ski de fond, pour aller faire de la randonnée, pour aller faire du vélo de montagne, qui est composé essentiellement aujourd'hui de forêt. Mais 100% du territoire de lac Beauport est dans le périmètre d'urbanisation de lac Beauport. Fait qu'à terme, il pourrait ne plus y avoir de boisés, plus y avoir de sentiers, plus y avoir de quoi que ce soit d'autre que des développements résidentiels à répétition à lac Beauport.
Ça fait pas de sens.
Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est quoi les moyens que l'État se donne pour forcer un meilleur aménagement du territoire et qu'on prenne un virage à 180 degrés sur la façon dont on pratique l'aménagement depuis 60 ans au Québec.
Écoutez, parmi les signaux un peu inquiétants qu'on reçoit ou les signaux positifs qu'on reçoit pas, il n'y a pas justement l'absence de toute référence, à moi, ce que j'ai vu, à une réforme de la fiscalité municipale. Le grand moteur de ce que vous venez de décrire des villes qui voudraient bien, mais qui peuvent pas parce qu'ils ont des contraintes, qui sont en concurrence les unes avec les autres, c'est cette fameuse question de la fiscalité municipale. Et on n'a pas vu beaucoup de références à cet enjeu-là dans ce qu'on a devant nous présentement.
Des fois, j'ai l'impression qu'on en mélange sur le dos de la fiscalité municipale. Dans le sens que c'est pas parce qu'on a les règles fiscales qu'on a actuellement qu'on est obligé de mal se développer. Quand la Ville de Québec dit si on n'ouvre pas des terres agricoles ou des milieux naturels, ce développement-là va aller s'installer à Sainte-Brigitte-de-Laval. Ben, qui aille à Sainte-Brigitte-de-Laval? Parce que ces développements-là ne sont pas rentables pour la Ville de Québec de toute façon. Les développements à faible densité, il y a de plus en plus de villes qui font des analyses de retombées fiscales. C'est le cas aussi de Lévis. Lévis, ils savent que quand ils font du développement d'unifamilial, ça se fait à perte. Alors, à cause de notre fiscalité municipale, ça devrait nous amener à faire des choix plus intelligents en matière d'aménagement pour s'assurer que tout ce qu'on fait est plus rentable. D'accord. Ceci dit, il faut aussi, quand je disais il manque de moyens financiers,
Monsieur Turgeon, on pourrait s'interrompre pour une petite pause, on reviendra justement avec ces découvertes que vous avez faites dans le dernier budget, qui sont aussi une source d'inquiétude. Alors, à tout de suite.
Oui. Très bien.
Chez Bellil, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Bellil Solution Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com.
Soyez bien équipés pour mieux travailler avec le M7 de Kubota. La performance, le confort et la polyvalence de ce puissant tracteur se chargent de vos plus grosses tâches cette saison. Présentement, profitez d'options de financement avantageuses sur le M7. Consultez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca. Et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole par son émission La quotidienne se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec.
Alors, nous sommes de retour à l'agriculture de demain pour nous pencher une fois de plus sur la nouvelle politique d'architecture et d'aménagement du territoire avec notre invité, M. Alexandre Turgeon, directeur général du Conseil régional de l'environnement de la capitale. Alors, M. Turgeon, on en parlait avant la pause, il y a eu plusieurs signaux qui laissent un peu les gens sceptiques ou un peu inquiets face à la véritable portée de cette nouvelle politique. Et un de ces signaux-là, vous l'avez trouvé un peu dans le dernier budget du gouvernement du Québec où, les moyens qui semblent être alloués à cette réforme sont un peu congrus. Pouvez-vous nous en parler?
Bien, à travers le monde, on peut dire, dans les pays occidentaux, je dirais que les villes ont généralement des moyens plus substantiels à leur portée pour bien gérer et planifier l'organisation des activités sur leur territoire, notamment en matière de transport et d'éducation. Il y a des groupes parmi nous qui auraient aimé ça voir un budget symbolique de 100 millions pour appuyer des nouvelles initiatives et nouvelles pratiques en matière d'aménagement du territoire. Ça, il s'agit de moyens incitatifs pour, accompagner les municipalités dans le changement des pratiques. Mais au-delà de ça, la loi, là, je vais vous lire ce qu'on attend dans les schémas d'aménagement. On s'attend à ce que des schémas d'aménagement planifient l'organisation du transport, notamment de ses différents modes, d'une manière intégrée avec l'aménagement du territoire. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de se développer autour de l'automobile strictement. Mais encore, c'est quoi les moyens que les municipalités et les MRC ont à leur disposition pour organiser le transport collectif? Ils sont toujours dans une... C'est vrai aussi pour les services éducatifs, là. Ils sont toujours dans une logique de quémandage où le ministère des Transports accompagne peu, donne peu de moyens aux municipalités pour développer les transports collectifs dans le cas des services scolaires ou des centres à la petite enfance pour les milieux de garde pour les moins de 5 ans, le gouvernement est toujours à la remorque des besoins au sein des municipalités. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est dans ce sens-là que je vous rejoins, dans le sens que une réforme de la fiscalité, ça serait de donner une meilleure autonomie financière aux municipalités, puisqu'il y a les meilleurs moyens d'assumer les compétences qui sont les leurs pour être capable de bien organiser les activités sur le territoire. Mais là, actuellement, on pèle en avant. Les municipalités au Québec on se dit, on va développer autour du routier, comme ça, c'est le ministère des Transports qui va avoir le problème de développer, d'entretenir la route à numéro, les autoroutes. C'est le gouvernement du Québec qui paye ça. Ça ne nous coûte pas une scène. On n'a pas une scène, fait qu'on va se développer autour de l'automobile. Donc, Notre modèle de fonctionnement nous conduit à prendre ce qui est le moins durable d'un point de vue aménagement du territoire, qui va le moins en concordance avec nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre dans la lutte au changement climatique, et qui nous conduit inévitablement à gaspiller le territoire, gaspiller des terres agricoles, gaspiller des milieux naturels, gaspiller des milieux humides. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le système. Puis, je dirais que l'aspect fiscalité, même si c'est souvent répété par plusieurs acteurs, y compris les municipalités, c'est certainement le volet pour lequel on a le moins avancé, puis qu'il y a le moins d'ouverture actuellement du gouvernement d'ouvrir ce chantier-là, de repartager les sources de revenus, les moyens qui sont mis à disposition des villes pour être capables de faire face à leurs obligations.
Vous avez évoqué le territoire agricole. Il y a effectivement une liste des lois qui se trouve modifiée par ce projet de loi, une liste impressionnante et effectivement à la hauteur peut-être de l'importance de la réforme. Parmi elles, la loi de protection du territoire agricole. On sait depuis l'adoption de la loi de protection du territoire agricole, il y a 40 ans, un peu plus de 40 ans, qu'il y avait un enjeu entre les deux lois, la loi d'aménagement et d'urbanisme et la loi de protection du territoire agricole, savoir qui avait prévalence sur l'autre. On a l'impression que cet enjeu est toujours présent. Cependant, dans ce projet de loi 16, en fait, il y a un seul article de la loi de protection qui est modifié et sur un mode mineur. Et on a l'impression, effectivement, que on ne revient pas sur... on ne cherche pas à souligner davantage le caractère inviolable du territoire agricole. En fait, il y a peu de choses là-dessus.
Effectivement, il y a peu de choses dans la loi, même si on rappelle les objectifs de préservation des milieux agricoles, naturels et des milieux humides, notamment dans le préambule de la loi. Ceci dit, c'est des thèmes qui sont récurrents dans les orientations gouvernementales en matière d'aménagement qui vont faire l'objet de consultations prochainement. C'est pas ma plus grande inquiétude. J'ai l'impression que l'époque où il suffisait qu'une ville ou une MRC dise j'ai besoin de m'agrandir, j'en fais absolument pas la démonstration, mais puis où la CPTAQ disait oui à peu près à n'importe quelle demande de dézonage, j'ai l'impression que c'est terminé. C'est pas là ma plus grande inquiétude, c'est que du milieu non agricole qui peut être urbanisé, il y en a encore beaucoup. Moi, je pense qu'on va être capable de je suis d'accord, par contre, ceci dit, puis le caractère, j'aime bien le terme que vous utilisez, le caractère inviolable du territoire agricole, puis je pense qu'on devrait utiliser le même pour les milieux vides et une bonne partie des milieux naturels. On a suffisamment de territoires déjà urbanisés qui méritent d'être réparés pour répondre aux besoins de la croissance démographique des 25-30 prochaines années, tant qu'on est à empiéter sur quelques hectares de terre agricole que ce soit. Peut-être que des fois, il y a des exceptions parce qu'il y a un demi-hectare qui est à un endroit stratégique. Peut-être qu'il y a des exceptions, mais à mon sens, on devrait... L'inviabilité du territoire agricole, effectivement, c'est quelque chose que on va certainement reprendre à notre compte dans notre mémoire, pour réaffirmer qu'on n'a pas besoin de toute façon de ces territoires-là pour bien répondre à nos besoins d'urbanisation.
Écoutez,
c'est une chose de protéger le territoire agricole, c'est autre chose que de le mettre en valeur. Beaucoup de municipalités ont un territoire agricole important sur lequel elles ne cherchent pas forcément à jeter leur dévolu pour des plans de développement, mais dont elles... ne s'occupe peut-être pas suffisamment pour que ça ait effectivement une vocation agricole affirmée. Je pense à des grands territoires comme ceux de Laval, par exemple. Il semble que la communauté métropolitaine de Montréal ait envie de faire des choses, mais c'est pas le cas partout.
Écoutez,
effectivement.
On se dirige déjà vers la fin. Moi, j'aimerais peut-être, pour peut-être terminer sur une note un peu plus positive, si on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, même ici, il y a des choses quand même très intéressantes, des exemples qui pourraient être inspirants en termes d'aménagement du territoire. Le maire de Québec, accompagné, je pense, du maire de la mairesse de Granby, revient d'un voyage au Danemark et en Suède où, semble-t-il, ils sont ramenés beaucoup d'idées intéressantes. Bientôt, nous allons recevoir, c'est notre émission, les gens de Cohabitant-Neuville. C'est une nouvelle formule, très peu d'exemples au Québec, mais quand même, c'est une façon nouvelle, semble-t-il, d'occuper le territoire, mais encore une fois, c'est une initiative de citoyens qui décident de changer les choses. On regarde ce à quoi aspire la jeunesse actuellement. Ils aspirent à un monde meilleur, une meilleure qualité de vie, un respect plus fort de l'environnement. Et on voit aussi, on a vu arriver l'automne dernier, une nouvelle génération de maires plus soucieux de ces questions-là. Je comprends que on peut voir des maires bien intentionnés, mais qui sont pris dans un étau. Moi, récemment, j'ai été heureux de voir le maire de Saint-Lin, M. Villeneuve, rejeter à toute fin pratique le nouveau schéma d'aménagement béni par la ministre des Affaires municipales qui a donné un petit peu, qui saupoudrait partout sur le territoire de la MRC de Montcalm, un petit peu de développement là, un petit peu de développement ici. Et ces nouveaux maires-là ont dit non, on n'en veut plus de ça. Alors, il y a quand même peut-être des raisons d'être un peu optimiste, même si on a de la misère à déceler une véritable volonté gouvernementale de changer les choses. Alors, est-ce que vous avez aussi une vision là, de lueur d'espoir quand même à travers tout ça?
Ben effectivement, y a toute une nouvelle gang d'élus, de maires, de conseillers qui, à notre sens, poussent dans la bonne direction. Vous avez donné l'exemple de la MRC de Montcalm, c'en est un des exemples. J'ai eu la chance aussi de voir la mairesse de Granby. J'ai participé à l'émission en Scandinavie auquel vous avez fait référence. Des exemples, ceci dit, vous donnez un exemple de Cohabitat à Neuville. Je suis pas capable de dire si... Si le cohabitat à Neuville fait du sens, est-ce qu'on est capable de vivre là sans être dépendant de l'automobile? Tout aussi intéressant que soit le concept de cohabitat. Pour moi, ce qu'on doit retenir, c'est qu'est-ce qu'on fait pour mieux appuyer l'autopromotion? Parce que c'est ça dont il s'agit. Au lieu de laisser aux promoteurs immobiliers le soin de dire à quoi vont ressembler nos quartiers, le concept d'autopromotion, c'est on réserve des portions importantes du territoire où la ville reçoit des propositions et où on met en place des conditions qui font en sorte que c'est les citoyens qui sont le plus souvent les plus aptes à répondre aux conditions de la ville pour développer ces territoires-là. Mais ça nécessite aussi une stratégie de soutien à l'autopromotion avec des professionnens qui accompagnent les citoyens dans l'élaboration de leur projet, parce que sinon c'est trop long.
Je m'excuse de vous interrompre, on doit s'arrêter. Écoutez, c'est sûr qu'on va y revenir. Nous, aussi à l'Institut, on attend la stratégie de mise en vigueur et on va vouloir tenir une table ronde avec des intervenants. Et ça nous fera plaisir de vous inviter pour participer à cet exercice de réflexion. Alors, c'est à suivre. Ben, alors, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, M. Turgeon.
Merci, au revoir.